De la table où je travaille, sans avoir qu'à lever les yeux, je vois, ourlant tout l'horizon du sud, la ligne continue d'un coteau, que bleuissent au lointain les bois. C'est la Sologne. Elle m'invite ainsi en permanence et j'obéis souvent à son appel. Cette ligne bleue, nous la voyons ici du balcon de votre bureau. Elle vous a souvent attiré.
Eh bien, c'est ce que j'ai dit, puisque vous venez de me citer. C'est très simple. La voilà, c'est tout. Mon bureau est là, nous sommes là, et la ligne bleue, la voilà. Il y a deux lieux, c'est-à-dire la distance, à peine. La distance d'une promenade à pied, elle m'attire, c'est naturel.
Oncle Bernard, c'était son pseudonyme à Charlie Hebdo, avait pour beau-père l'écrivain Maurice Genevoix qu'on vient d'entendre. Il disait l'exigence que c'était de travailler à la table de Genevoix et la joie qu'il y avait à vivre à Saint-Denis de l'Hôtel dans la maison des Vernelles. Genevoix l'avait acheté dans les années 20 avec l'argent de Rabolio. Il l'avait faite de ses mains à sa vie. Elle est construite en haut d'un talus qui domine la Loire. Les bords de son jardin sont frottés des sables du fleuve. La dernière fois qu'il est venu dans ce studio, j'avais installé Bernard dans le fauteuil face à une fenêtre qui donne sur la Seine. Il parlait bien de la Garonne, il avait enseigné à Toulouse, il parlait bien de la Loire, il parlait bien de la Seine. À la marche, il y a deux mois, il avait parlé de Hayek, le grand économiste libéral, et certains auditeurs s'en étaient étonnés avant l'émission, mais pas après. Bernard était toujours si intéressé par l'autre qu'il en tenait le meilleur compte. À Hayek, il reconnaissait l'ampleur de vue, la vision du long terme, le sens de la complexité. Ce n'était pas un de ces économistes à chapeau pointu avec leurs faux oracles. Hayek, c'était l'adversaire et le partenaire de Maynard Keynes. C'est tout de même Keynes que défendait sans cesse Bernard Maris. Et voici comment, dans une autre marge de l'histoire, cette fois en 2012, il parlait de sa théorie de l'emploi formulée après la crise des années 30.
C'est une théorie absolument révolutionnaire. C'est-à-dire que jusqu'alors, tous les économistes disaient « Bon, écoutez, il faut que l'État intervienne le moins possible, sinon pour faire respecter les règles du jeu, il faut laisser faire la loi de l'offre et de la demande, laisser faire, laisser passer. » C'est la bonne vieille idée du marché qui s'autorégule et qui retrouve son équilibre tout seul. Et Keynes dit « Non, non, là, il y a vraiment un déséquilibre durable qui va durer. Et pour sortir de ce déséquilibre, eh bien, il faut que l'État se substitue à l'entrepreneur défaillant. Eh bien, il n'y a pas d'investissement privé. Il faut que l'État fasse de l'investissement public et fasse de la dépense
pas
publique.
Pas dans n'importe quelle condition, parce qu'il est nécessaire de prendre des décisions qui ne seront pas prises par d'autres quand on est l'État, mais il ne faut pas les prendre à contre-temps.
Non, il faut donner du pouvoir d'achat, il faut que de l'argent circule, il faut que les gens aient envie de consommer, et ayant envie de consommer, eh bien, ils créeront leurs propres revenus. Ce qui est tout à fait révolutionnaire, ce qui est complètement une théorie de la relativité par rapport à la physique newtonienne. C'est-à-dire que Keynes dit, vous allez donner de l'argent, et par cet argent qui va être consommé, les gens vont créer leur propre salaire futur. C'est incompréhensible pour la plupart des économistes. Et même aujourd'hui encore, beaucoup d'économistes ne peuvent pas admettre ce genre de choses.
Et ça va donner envie d'embaucher aux entrepreneurs. Parce que l'emploi n'est pas régi par la loi de l'offre et de la demande, comme vous le disiez. Il est d'abord régi par la décision ou non d'embaucher que prennent les entrepreneurs.
Bien sûr. Mais pour embaucher, il faut encore que je produise des choses que les gens vont consommer. Donc si je donne de l'envie de consommer, c'est ça la théorie keynésienne aux gens, eh bien je vais créer de l'embauche, donc je vais créer du salaire. Et je vais créer le salaire qui va me permettre de payer la consommation. C'est complètement extraordinaire comme théorie. Il a quand même un bouleversement, comment dire, conceptuel qui est très très fort chez Keynes. C'était vraiment une révolution. On a eu raison de parler de révolution keynésienne.
Dans la vie, Bernard Maris avait l'air d'un épagnol triste. C'est Dominique Seux qui écrit cela dans Les Échos de ce matin. Mais on pouvait tout aussi bien le voir comme un cheval, aux naseaux frémissants de curiosité, de sensualité, d'ambition. Il y a eu de cela en lui. Le portrait d'ailleurs qu'il faisait de Keynes, ici même, c'était une manière d'autoportrait rêvé. Par exemple, quelle volupté de pouvoir retarder son lever en travaillant tard au lit le matin.
Il fait sa correspondance le matin, il passe ses ordres de bourse, il commande son déjeuner et il commence à préparer son après-midi et sa soirée, c'est-à-dire ses rendez-vous et la sortie qu'il fera le soir.
Oui. Oui, alors la sortie qu'il fera le soir, on en parlera tout à l'heure. Les rendez-vous, j'imagine que c'est avec les puissants, avec le grand journal économique, la grande revue économique dont il est le pilier. Mais la City, alors c'est un spéculateur. Mais d'habitude, on dit du mal des spéculateurs. dans la morale commune d'aujourd'hui, on explique que c'est pas bien, que l'entrepreneur c'est bien, que le spéculateur c'est pas bien.
Et on fait en général ce contresens en disant Keynes c'est pour les entrepreneurs, contre les spéculateurs. Or, lui-même, non seulement il a été un grand spéculateur, il a même joué, on peut le dire, l'argent de sa famille sans que sa famille le sache. Il a même joué contre la livre sterling quand il sentait que la livre sterling n'allait pas bien. Il a fait entreposer du blé à un moment donné parce qu'il spéculait sur le blé.
Oui, alors il jouait sur les matières premières et il avait trop de blé. Et alors il a demandé à Cambridge, à son collège, dont il était administrateur, on ne peut pas utiliser la nef de l'église pour stocker mon blé. Il faut le faire.
Il faut le faire, oui. Donc il a été... c'était vraiment un personnage qui spéculait. Et il considérait que, après tout, la spéculation, c'était la prise de risque et que le spéculateur contre comme l'entrepreneur, prenait des risques et puis il payait ses risques lorsqu'il perdait. Le personnage qu'il n'aimait pas, c'était le rentier. C'était celui qui percevait des fonds comme ça, un peu comme une taxe, parce qu'il existait, du fait d'exister, percevait des fonds sans jamais prendre de risque. Et il dit d'ailleurs, à la fin de la théorie générale, que ce qu'il souhaite, c'est l'euthanasie du rentier. C'est-à-dire qu'il souhaite la disparition des rentiers qui sont les personnages qu'il déteste.
Rassurez-vous, chers auditeurs, il avait le goût de la provocation,
oui, Keynes. Vrai. Mais il était extrêmement favorable aux spéculateurs, aux hommes d'affaires. Il disait, les hommes d'affaires, il y a trois catégories de personnages dans la vie. Il y a d'abord les créateurs. Les intellectuels, les peintres. Bon, et puis il y a ceux qui n'ont pas ce talent. Donc ceux-là, en général, c'est des hommes d'affaires, des spéculateurs. Et il vaut mieux que leur abondante libido, c'est encore un terme assez freudien, leur abondante libido se passe là-dessus, sur la spéculation, sur la création d'entreprises, plutôt que de terroriser ses voisins.
Maurice Genevoix, toujours lui, disait qu'un homme qui rencontre un homme, ce sont des yeux qui cherchent. Et ce que les yeux cherchent, ce sont les yeux de l'autre. On se demande quel regard se sont échangés les assassins d'hier et le groupe qui se serrait à la conférence de rédaction du mercredi rue Nicolas Appert. Bernard Maris, comme Genevoix, lui, ne pensait l'homme que solidaire. Chez Keynes, il admirait la munificence que celui-ci pratiquait dans des cercles non conformes. Le vendredi à la Société des Apôtres, le dimanche à la Société de Bloomsbury, que décrivait ainsi dans notre marche de 2012 le mari de Virginia Woolf.
We were simply a fortuitous aggregation of friends who happened to live together.
C'était tout simplement une réunion d'amis. Nous étions politiciens, artistes ou écrivains.
When it really consisted originally of 13 people.
Il était constitué à l'origine de 13 personnes, 3 femmes et 10 hommes. Parmi ces 13 personnes, il y avait les 3 Stephens, Vanessa Stephens, Virginia Stephens et Adrian Stephens. Vanessa Stephens avait épousé Clive Bell, qui était l'un des membres originels du groupe. Et moi, j'avais épousé Virginia. Il y avait Lytton Strachey, Maynard Keynes, Roger Fry, Duncan Grant, le peintre,
E.M. Forster
et Saxon Sidney Turner, qui travaillaient au Trésor. Mais aussi Desmond McCarthy et sa femme Polly, qui vivaient à Chelsea.
Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, Bernard Maris ? Ils les échangeaient ?
Alors, ils échangeaient, ils pratiquaient ce qu'ils appelaient la médisance. Ils adoraient médire les uns des autres. Et puis, ils échangeaient aussi beaucoup d'idées. C'était des gens extrêmement intelligents, très, très brillants. Et ils échangeaient aussi sexuellement, puisque Vanessa, la sœur de Virginia Woolf, donc Vanessa Stephens, a été la maîtresse de Duncan Grant, et ensuite l'épouse de Duncan Grant. Mais Duncan Grant avait été aussi l'amant de Maynard Keynes. On ne dit pas John Maynard Keynes. Mais Maynard a été aussi l'amant de Lytton Strachey aussi. Et puis du frère de Lytton Strachey, de James Strachey. Donc tout ça,
ils échangeaient des idées sur des lectures. Ils échangeaient des idées sur la lecture de Freud, par exemple.
Voilà, par exemple. Alors ce sont eux qui ont découvert Freud et qui ont fait découvrir Freud à l'Angleterre. Je dirais que le groupe de Bloomsbury, qui était très lié avec le groupe des apôtres, qui sont les plus brillants intellectuels d'Angleterre, puisque par exemple Bertrand Russell ou Wittgenstein a été apôtre aussi. Wittgenstein aussi a été l'amant de Keynes, pas très longtemps, mais enfin bon. Et donc, tous ces gens étaient extrêmement intelligents, extrêmement érudits. On peut dire qu'ils ont introduit deux choses en Angleterre. Ce sont la peinture française, ils ont introduit d'une part, et d'autre part Freud. Ça a été quand même la grande découverte. Et ils ont traduit et introduit Freud en Angleterre.
On n'imagine pas nos économistes aujourd'hui à chapeau pointu, vous les décrivez ainsi, très férus de leur spécialité. Je ne dis pas avoir des mœurs comparables à celles que vous décrivez, mais parler de psychologie et considérer que la psychologie et la psychanalyse, c'est essentiel quand on fait de l'économie.
Non, ça a été justement la grande découverte de Keynes et je pense que c'est pour cette raison qu'il est extrêmement actuel, c'est qu'il a découvert que beaucoup de phénomènes économiques étaient liés à la psychologie, soit à la psychologie personnelle, soit à la psychologie collective, les mouvements de foule. Par exemple, Keynes a été un grand théoricien de la bourse, lui-même ça a été un spéculateur, il a beaucoup écrit sur la bourse, sur la monnaie, et sur la bourse, il pensait que c'était vraiment le mouvement de foule, les paniques, les engouements collectifs, le mimétisme, le panurgisme, tous ces phénomènes qui pouvaient expliquer...
Là, vous parlez de psychologie collective, mais comment fait-il la transposition de la psychologie individuelle, qui consiste peut-être à dire que l'argent est un désir infantile, voilà, à la psychologie collective.
Alors ça, ça a été sa grande question, ça a été de dire pourquoi les hommes sont tellement cupides, pourquoi ils ont cette soif inextinguible d'argent, pourquoi ils désirent toujours plus d'argent. Il est allé puiser dans les théories freudiennes de l'argent, qui sont des théories un petit peu, particulières, que je ne vais pas décrire ici. Il est allé puiser dans les théories freudiennes de l'argent le désir infini d'argent, qui est un désir pour lui proprement infantile et qui fait qu'on est toujours insatisfait. Et le fait de posséder de l'argent ne satisfait jamais les hommes.
Keynes, Genevoix, ces dernières années, accompagnant le dernier combat de Sylvie Genevoix, son épouse, Bernard avait fait beaucoup pour la résurrection de l'œuvre de l'écrivain qui, ancien combattant de 14, grièvement blessé en 1915, en 79, l'âge venu, les perspectives désencombrées, le tri fait, était revenu sur l'essentiel, la fraternité avec les morts dont il avait été le camarade. Maurice Genevoix.
L'homme n'est pas fait pour vivre seul. La vie va d'étape en étape et chaque étape appelle des compagnons. Ceux de mon âge, avant d'avoir 30 ans, s'ils cherchaient des yeux autour d'eux leurs compagnons de la veille, ne voyaient plus guère que des morts. C'est parce que je crois cela que j'ai voulu ainsi témoigner, pour avoir touché le passage entre le temps où je me battais, où j'étais encore intuable, et mon retour à une vie redonnée, désormais plus précieuse et plus belle. Le souvenir même que je gardais de tous ces morts avait changé et les rejoignait mieux. Que je me recueille, ils reviennent, ceux dont j'ai parlé, tous les autres.
Genevoix lisait « La mort de près », un recueil d'agonie. Il glissait la main de ses camarades morts dans celle de ses lecteurs. Nous aurons aujourd'hui glissé la voix de Bernard Maris dans celle des auditeurs d'Inter, à qui elle était si familière. Merci à vous, Bernard.